Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Les pérégrinations d'un drapier d'Alep.
Il suffit de dire « Sésame, ouvre-toi » et la porte s'ouvre.
« Sésame, ouvre-toi »
« Sésame, referme-toi » et elle se referme.
« Sésame, referme-toi » Mais pourquoi Sésame ?
Il s'appelait Anadiab et il venait d'Alep. L'une des plus brillantes échelles du Levant, il fut en 1709 l'un des informateurs d'Antoine Galland qui à Paris collationnait et traduisait les contes des Mille et Une Nuits. Il y avait d'ailleurs de l'Aladin chez Anna, c'était un conteur né à Alep. Dans la fraîcheur des jardins, le soir, on aimait se confier toutes sortes d'histoires parvenues en ville par les routes et par les caravanes. On imagine qu'Anna, de retour au pays, narra maintes fois les aventures qu'il avait vécues le long de la Méditerranée, jusqu'à Paris et à Versailles, où il avait vu le sultan de France. Les rigueurs de l'hiver 1709 devaient retenir particulièrement l'attention de l'auditoire. Un matin, disait-il, rien qu'en sortant de ma chambre, je fus gelé sur place, au point que mes moustaches, il tenait beaucoup à ses moustaches, en tombèrent de mon visage. Mais comment les Alépins pouvaient-ils se représenter les souffrances des Parisiens ? Dès 1710, Anna avait fini par rejoindre le grand souk du textile. Un demi-siècle plus tard, il se décida à consigner par écrit son récit. C'est un document unique parce qu'il émane d'un homme ordinaire qui, de par son métier, connaît plusieurs langues, mais ne cherche ni les faits littéraires, ni la vérification érudite. Voici, sur notre compte, le témoignage d'un Syrien qui a pris le temps d'être curieux de tout.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
En compagnie de Bernard Héberger, bonjour.
Bonjour.
Votre collègue arabisant distingué et scrupuleux, Jérôme Lantin, découvre au Vatican il y a 25 ans ce manuscrit que vous publiez avec le concours aussi de Paul Famé-Thierry, une de vos anciennes étudiantes, une alépine enthousiaste, aux éditions Sinbad Actes Sud. C'est publié en français avant d'avoir été jamais publié en arabe.
Oui. Ce n'est pas très sérieux du point de vue académique, mais c'est un enchaînement de faits. En fait, nous avions une promesse de le publier ensemble, et puis rien ne s'est passé. Et Paul Farmé, je lui ai donné ce manuscrit à lire, elle a été enthousiaste, elle a commencé à travailler, et elle nous a obligés, Jérôme et moi, à la suivre.
Matériellement, ça se présente comment ? Manquent les premiers folios, mais c'est gros.
Ah oui, ça fait quand même 200 folios, quelque chose comme ça.
Écrit au roseau.
Écrit au roseau, avec une écriture assez régulière. Donc, quelqu'un qui sait bien écrire, on a même déjà fait l'hypothèse que peut-être il a travaillé comme copiste, parce qu'il y aurait d'autres manuscrits au nom d'un Hana maronite d'Alep qui pourraient être les siens.
Que n'a-t-il fait comme métier ? On va peut-être d'abord voir où en est Alep. À son départ, alors on sait qu'aujourd'hui, Alep est divisée et assiégée. À l'est, les rebelles. À l'ouest, quasi coupée par des groupes de djihadistes étrangers des zones gouvernementales, le quartier encore tenu par les forces du président Assad. Et puis, au nord d'Alep, l'aviation russe qui ne cessait de pilonner les rebelles syriens pendant que l'aviation turque pilonnait les Kurdes. C'était pourtant une si belle ville qui, depuis que les Ottomans l'avaient occupée, en 1516, avait pu se déployer dans toute sa splendeur.
Oui, la guerre n'était pas très loin. Elle était en Irak. Il y avait déjà la frontière entre la Perse et l'Empire ottoman à cette époque-là. Mais Alep était plutôt prospère. C'était la troisième ville de l'Empire ottoman après Istanbul et Le Caire.
Peut-être 120 000 habitants.
Quelque chose comme ça.
Au début du 18e.
Oui, voilà. Et c'était à la fois une ville qui n'était pas très loin de la mer, d'Alexandrette, qui était le port, qui permettait de commercer avec l'Occident en particulier, mais aussi avec Istanbul et avec l'Égypte. Et puis, c'était le départ des caravanes. Donc, la grande prospérité d'Alep venait surtout des caravanes qui allaient vers la Perse. Et il y a même des filles d'Alep qui s'appelaient Hindiyeh parce que leur père, sans doute, était allé jusqu'au Hind, jusqu'en Inde.
Et c'est d'ailleurs par ces routes caravanières que passaient les contes des mille et une nuits sur lesquels on reviendra dans un instant. La cité, la Médina, est dominée par la grande mosquée, par les multiples mosquées construites par les Ottomans avec leur minerai si particulier. Une citadelle grandiose qu'on peut presque se passer de la défendre, parce que l'interland ottoman est relativement sûr quand même autour.
Alors Alep, en arabe, on dit Alep l'a bien gardée. Mahfouz. Mais il y a un passage où Hanna déplore le mauvais état de la citadelle, les canons ensablés et les fusils rouillés. Mais il est vrai qu'Alep, à cette époque-là, n'a pas à se défendre. C'est une ville paisible. Et Alep est prospère quand elle est un carrefour entre Kurdes, Arabes, Turcs et Persans, en quelque sorte. Et c'était le cas à l'époque. Et Alep est malheureuse lorsqu'elle est sur la frontière, entre Rome et la Perse, ou entre les Arabes et Byzance, etc.
Époque encore heureuse, 1707, au moment de son départ, plusieurs dizaines de souks et de caravansérails.
Le patrimoine le plus important à Alep demeure les souks. Édifiés sous le règne d'Alexandre El Makdouni, leur tracé va de la citadelle jusqu'au site de l'Agora, où fut construite la mosquée Omeyyade. Ce sont les plus grands et les plus anciens marchés couverts au monde. Ils sont divisés en 39 secteurs, chacun ayant son activité. Vous trouverez par exemple le souk de l'or, de la confection, des tissus, de l'argent, des parfums caractéristiques des épices locales. Ce sont les caravansérails. Les caravansérails étaient le lieu de rencontre des commerçants venus de toutes parts. Ils y déposaient animaux et marchandises et dormaient à l'étage. Alep abrite encore aujourd'hui 68 de ces caravansérails. La représentation commerciale remonte à 1207 et reliait Alep à Venise. Alep fut aussi créée la première imprimerie en langue arabe, fondée en 1706.
Un an avant le départ d'Alep de notre ami Hanna Diab, qui, lui, sans doute, à ce moment-là, habite le souk des textiles, qui est tenu pour l'essentiel par les chrétiens. C'est un maronite, avez-vous dit. Il y a d'ailleurs d'autres confessions chrétiennes. Il y a peut-être 15 ou 20 000 chrétiens sur les 100 ou 120 000 habitants.
Oui, oui. Donc, il n'habite pas le souk, à mon avis. Il habite le faubourg nord d'Alep.
Où se développent les chrétiens.
Où se développent les chrétiens et où les Ottomans ont vraiment investi du point de vue urbanistique, puisqu'il y a des très beaux bâtiments, des mosquées, mais aussi un café, par exemple, au centre de ce quartier. Et ces très belles maisons que les gens allaient visiter avant l'éclatement de la guerre en 2011.
Mais sont les maisons avec des métiers à tisser dans les cours?
Alors, il y avait des ateliers dans le quartier, mais une grande partie de l'activité se déroulait hors du quartier.
C'est le même mode de vie pour les maronites, les autres chrétiens et les musulmans.
Absolument. Donc ils ne vivaient d'ailleurs pas complètement en ghetto, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens avaient des voisins musulmans et ils étaient dans les mêmes corporations. Ils partageaient la même éthique du métier. Quand ils prêtaient serment, les musulmans prêtaient serment sur le Coran, les juifs sur la Torah et les chrétiens sur l'évangile. Et ils étaient associés en affaires très souvent avec les musulmans.
Et comme on s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux questions de voile, précisons que les femmes chrétiennes étaient voilées en 1707.
Les femmes d'Alep étaient complètement voilées, qu'elles soient chrétiennes ou non. D'ailleurs, on a des règlements à destination des femmes chrétiennes qui disent que les femmes doivent faire attention de ne pas se laisser le voile être emporté par le vent, par coquetterie.
Et le clergé chrétien tentait d'interdire l'alcool.
Il y avait peut-être un abus d'alcool, parce qu'il y a énormément de prescriptions pour combattre la consommation d'alcool, mais aussi la production et la vente d'alcool. Et il y a un texte sur lequel j'ai travaillé, qui est une liste de péchés, et parmi ces péchés, manger de la viande non halal est un péché.
Et ce sont les chrétiens, j'insiste
bien. Je parle bien des chrétiens.
Les solidarités familiales sont tissées très serrées chez les chrétiens aussi. D'ailleurs, on pense que Hanna, qui est un cadet, cherche toutes les opportunités pour quitter ce cocon un peu oppressif. Il va même tenter un moment un noviciat chez les maronites du Liban.
Malheureusement, on ne connaît pas le début de l'histoire, puisque le manuscrit est amputé des premières pages. Et quand le manuscrit commence, il tente sa chance, il essaye de se faire moine au Mont Liban. Il faut dire que c'est une congrégation qui vient de se fonder et qui est complètement investie par les Alépins. Donc il est avec d'autres gens d'Alep quand il fait la tentative, mais elle n'est pas concluante.
Une autre opportunité va se présenter en la personne d'un nommé Paul Lucas, alors qu'il a des fonctions mi-officielles, mi-commerciales. C'est un garçon qui fait commerce de tout. Pierre précieuse ou autre.
Oui, il a une mission officielle du ministre pour collectionner, recueillir les manuscrits, les monnaies, les inscriptions pour l'académie. Et son voyage sera publié, mais réécrit en fait par un académicien à partir de ses notes.
Paul Lucas publiera lui aussi sa relation, c'est très à la mode à l'époque.
Paul Lucas ne la publie pas, c'est en fait un académicien qui l'écrit à partir des notes de Paul Lucas.
Sous son nom néanmoins.
Sous son nom, voilà.
Bien avant que Anna ne rédige la sienne autrement personnelle. Alors le voilà parti, il va faire un long trajet en Méditerranée, Chypre, Égypte, Tripoli d'Occident, Libye aujourd'hui, Sousse, Hammamet, Tunis, la Corse, Livourne, Gênes. Il est habillé comment? La moustache d'abord, c'est très important.
Oui. Je pense qu'il fait tout ce trajet habillé en oriental et qu'il change quand il arrive à Livourne.
D'accord. Et la moustache, il la rase
la
à Livourne?
Moustache, alors la moustache, il ne faut pas y toucher. Et effectivement, à Livourne, il va chez le barbier emporte la moitié de la moustache avec le premier coup de rasoir et Hanna pousse des cris comme si on lui avait taillé la peau.
Mais il y a bien d'autres dangers en Méditerranée qui sont encourus par les voyageurs. Il va raconter, beaucoup plus tard, quand il fera sa relation, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, qu'il a utilisé les simples tartanes avec un mât, les galères, qui l'impressionnent beaucoup, parce qu'il voit un véritable enfer dans le statut des galériens, ou d'autres vaisseaux qui paraissent plus solides, mais qui peuvent être pris d'assaut.
Nous approchons de l'île Sardes.
Alors on double la garde et les vigies?
De fait.
Doublez la garde et les vigies!
Tripez la vogue! 14-22!
La chiourme ne va pas tenir.
Il le faut.
Ils ne sentent même plus le fouet.
Anna, on aime bien les histoires. Ici, c'est un conte angélique, un extrait d'un des films de Bordery. On ne sait jamais par qui on est attaqué, d'ailleurs, en Méditerranée. Les corsaires
C'est quand même intéressant de noter qu'à cette époque-là, ce ne sont pas les corsaires barbaresques qui menacent les vaisseaux français, ce sont les corsaires anglais. On est pendant la guerre de succession d'Espagne et la question, c'est de prendre un bateau qui ne se fasse pas attaquer par les Anglais, mais Paul Lucas fait des mauvais choix. Il choisit un bateau d'Égypte vers la Libye, qui est un bateau français, où effectivement ils ne sont pas attaqués par les corsaires, mais le capitaine est incompétent, il s'égare, il est pris dans une tempête, et ça se passe assez mal. C'est là que Hanna souffre le plus, en fait. Et puis dans d'autres épisodes, il choisit d'être sur un vaisseau anglais, mais il est attaqué par un corsaire français.
Diable, on comprend qu'il soit content de retrouver la terre ferme à Marseille, d'autant qu'il est à l'aise à Marseille. Il connaît des Marseillais, il y en a qui viennent à Alep. La Chambre de commerce de Marseille a joué un rôle dans la désignation des consuls français autrefois à Alep.
Alors ceux qui prennent le récit de Hanna pour des lettres persanes et croient que c'est l'opposition Orient-Occident vont être un peu déçus parce que Hanna finalement est familier dans différents endroits, et à Marseille en particulier, il est très familier parce qu'il y retrouve des gens qu'il connaît, les Rémusats, les autres marchands marseillais.
Parle le provençal.
Et il se débrouille en provençal. D'après Galland, il parlait le provençal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en arabe, il utilise des termes provençaux. Et lorsqu'il écrit le nom du consul Lemaire, il écrit Lemaire en insistant sur la finale.
Le Syrien ne se sent pas étranger à Marseille à l'époque. Ensuite, Lyon, avec l'horloge astronomique de l'église Saint-Jean, l'arrivée à Paris en septembre 1708, des dizaines et des centaines d'églises, et à l'église, à la cathédrale Notre-Dame, une procession pendant la fête Dieu, et il voit l'ostensoir sous un dais de tissu. Et bon sang, qu'est-ce que c'est que ce tissu ?
Il est sur le balcon au Pont Saint-Michel où habite Paul Lucas, et il lit sur le dais Allah, pas de divinité en dehors de Dieu, et il ne dit pas la suite. Et c'est Galan qui raconte l'épisode et qui va dire la suite. Mohammed, prophète d'Allah.
Il y a ça au-dessus de l'ostensoir.
Catholique. Oui, donc sur le dais qui surmonte l'ostensoir. Donc alors, la profession de foi de musulmane au-dessus du corps du Christ consacré. Et il donne l'alerte et son maître l'envoie à l'archevêché. Oui, c'est assez curieux. Il tombe sur un Alépin. Quelqu'un d'une famille d'Alep qu'il connaît bien, à qui il raconte l'histoire. Et il se trouve que le sacristain, pour protéger le dé, avait pris des bannières barbaresques et les avait posées sur le dé. L'archevêque, le cardinal de Noailles, décide de les faire brûler.
Alors, il y a la cathédrale, mais il y a aussi l'opéra. Lorsque je fus assis, je vis qu'un rideau était tendu sur toute la largeur du lieu. Une lumière apparut derrière le rideau, si puissante que je crus que le soleil se levait de l'intérieur. C'était le premier acte d'Attis de Lully, où Attis presse les Phrygiens de se réveiller pour accueillir la déesse Cybèle, pendant que son ami Idas tente de le calmer.
Allons, 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 si belle va descendre. Trop heureux, Phrygiens, venez ici l'attendre. Mille peuples seront jaloux des faveurs qu'a sur nous sa bonté. Il a séché les pleurs que sur les vallées prés a répandu l'aurore.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
D'Alep à Paris, les pérégrinations d'un drapier maronite. C'est une publication chez Sinbad Actes Sud, dirigée par Bernard Héberger. Votre ami qui a découvert le manuscrit, Jérôme Lantin, qui participe à l'édition, dit que le passage où Anna est à l'opéra, on a entendu cet extrait d'Attis dans la version William Christie, Les Arts Florissants, Résurrection de l'opéra en 1987, c'est le plus beau passage. Il est saisi d'étonnement devant toutes les machines.
Oui, il ne comprend pas bien l'histoire. Il dit d'ailleurs que ça s'appelle le songe de Bacchus et il croit qu'il y a un roi qui a une aventure avec une autre reine et donc sa femme est mécontente, etc. Il n'a rien compris aux Phrygiens, à Cybèle, etc. Mais il est fasciné par la mise en scène, le nombre de personnages sur la scène. Ça commence avec des villageois qui sont là avec les animaux. Et puis, il y a des nuées, des chœurs de jeunes filles qui descendent des nuées. Il y a une fontaine avec de l'eau qui coule en permanence. Alors, il se pose vraiment beaucoup de questions sur les machineries, sur la scénographie.
Et ne parlons pas de la scénographie de Versailles, où il va arriver, accompagnant son mentor Paul Lucas, habillé en mamamouchi. Là, il joue l'étranger, là, à Versailles, oui, comme jamais.
On lui a demandé de porter le costume d'Alep, donc le turban, le caftan, le pantalon large, etc.
La ceinture précieuse, le poignard. Voilà. Etc. Et il est porteur d'une cage dans laquelle sont des gervoises.
Oui. Donc, des gerboises, ce sont des souris du désert qu'il décrit de façon très précise, qui sont assez habiles de leurs pattes de devant pour se nourrir. Il a été chargé de les transporter et donc, à Versailles, c'est lui qui porte cette cage. Et il montre d'abord les animaux à Pontchartrain, au ministre, qui dit qu'il faut les montrer au roi, qui dit qu'il faut les montrer au régent, et qui appelle Fagon, le médecin du roi, pour qu'il les fasse dessiner, parce qu'on se rend compte qu'elles ne figurent pas encore au catalogue qu'on est en train de faire de tous les animaux qu'on peut trouver. D'ailleurs, Buffon, plus tard, mentionnera le fait que les gerboises ont été, pour la première fois, mentionnées et apporté en France par Paul Lucas.
Et par le maronite Anna, notre vrai héros voilà. Aujourd'hui, qui considère la cour du sultan de France en la comparant, au roi d'Istanbul. J'emploie à dessein les termes parce qu'il mélange, lui.
C'est assez curieux qu'il dise sultan pour le roi de France et roi pour le sultan. Et la terminologie politique chez Hanna est intéressante. Par exemple, pour dire la loi, il n'a pas d'autre mot que charia. Évidemment, aujourd'hui, le mot nous évoque autre chose que simplement la loi.
Alors, la loi peut être impitoyable en France. La charia peut mener à l'exécution. À un moment, lui-même est arrêté. Il est curieux de toutes les exécutions qu'il va voir en spectateur. Réagit-il ici comme... Allez, on aime bien les histoires. Voici un extrait du film hispano-allemand de Tom Tykwer, adapté du Parfum, comme cette exécution où la foule adhère à toutes les propositions du bourreau.
La sentence de la cour sera exécutée dans deux jours. Le compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille sera attaché sur une croix de bois avec le visage tourné face au ciel. Et alors qu'il sera encore vivant, il recevra 12 coups de barre de fer qui lui briseront les articulations des jambes, des bras, des épaules et des hanches. Ensuite, il sera pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout acte de miséricorde sera expressément interdit à l'exécuteur des hautes œuvres.
Eh bien, nous sommes au regret de dire aux auditeurs qui ont apprécié cette séquence que Anna ne réagit pas du tout ainsi. Il considère que les Français détestent les bourreaux plus qu'ils ne les supportent. Et il y a une très belle histoire, c'est un grand conteur, celle d'une condamnation malheureuse. Un jeune homme, beau comme le jour, c'était le fils adoptif d'un commerçant et il avait eu une faiblesse.
Il avait monté sa propre affaire, mais il était un peu à court d'argent et il avait pris des lettres de change dans les affaires de son père.
Alors le père déclenche des poursuites sans savoir que c'est le fils qui est responsable. La justice établit que c'est le fils. Le père presse la justice d'acquitter, mais celui qui est condamné est condamné. Et le jeune homme va se retrouver pendu, haut et court.
Et oui.
Et où ? Vous vous souvenez, au pied de la maison familiale.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et il regarde en pleurant le bonheur perdu.
Oui.
Ça, c'est une histoire à la Anna.
Absolument. Donc il sait générer des larmes chez son auditoire à Lépin. Enfin, on peut l'imaginer.
Mais aussi dans l'auditoire parisien, parce qu'il se trouve avoir été un informateur clé d'Antoine Galland, souvent cité dans cette émission. Le grand traducteur des Mille et Une Nuits, Michel Butor, que voici, ne lit les Mille et Une Nuits au XXIe siècle que dans la traduction de Galland.
Tous ces contes qui viennent, on le sait, de très loin, il y en a qui viennent de la Grèce, il y en a qui viennent de la Chine, eh bien, tous ces contes ont été rassemblés dans une forme très puissante. dans une forme fascinante, à l'aide d'un thème fondamental, la puissance du récit.
Ma mère, reprit la dame, et donnez-moi la lampe que j'apportais hier. J'irai la vendre, et l'argent que j'en aurai servira à nous avoir de quoi déjeuner, dîner, et peut-être de quoi souper. La mère d'Aladin prit la lampe où elle l'avait mise. « La voilà, dit-elle à son fils. Mais elle est bien sale. Pour peu qu'elle soit nettoyée, je crois qu'elle en vaudra quelque chose davantage. » Elle prit de l'eau et un peu de sable fin pour la nettoyer. Mais à peine eut-elle commencé à frotter cette lampe, qu'en un instant, en présence de son fils, un génie hideux, d'une grandeur gigantesque, s'éleva et parut devant elle et lui dit d'une voix tonnante.
« Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave. »
Et la question que vous posez, Bernard et Berger, c'est « Et si Anna était Aladin ?»
Le conte d'Aladin, comme celui d'Ali Baba, pose un problème parce qu'il n'y a aucune source orientale de ces contes. Quand Michel Butor dit qu'ils viennent de loin, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent de Anna. Point. On n'a jamais trouvé d'autres sources. Dans le cas d'Aladin, il y a quand même des ressemblances troublantes avec sa propre histoire. Le jeune homme qui cherche sa voie, qui rencontre à ce moment-là un mentor. Chez Aladin, c'est l'oncle maghrébin. Et puis, à la sortie de la ville, l'oncle rencontre une grotte, il fait descendre Aladin dans la grotte. Que trouve Aladin dans la grotte? Il trouve une lampe. Eh bien, lorsque la caravane part d'Alep, Paul Lucas, à la première station à Kiftin, première station à la sortie d'Alep, dans une ville morte byzantine, fait descendre quelqu'un dans une grotte, qui est un tombeau, qui ressemble tout à fait à ce qu'il y a dans Aladin. Et que trouve-t-il dans cette grotte? Il trouve une lampe. Donc il y a des ressemblances troublantes. L'autre ressemblance troublante, c'est que ce jeune homme ne veut pas faire n'importe quel métier, ne veut pas faire les boulots qu'on lui propose, et il aimerait bien être installé comme drapier au souk. Donc c'est bien ce que Hanna obtiendra de son grand frère quand il reviendra de son voyage.
1710, il rentre. Alors le trajet du retour est l'objet de nombreuses histoires à travers l'Empire ottoman. La famille d'ailleurs le croit mort quand il surgit devant elle, et la famille va l'enfermer de nouveau dans sa bulle protectrice.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on sait de la fin d'Anna?
Il va être installé au souk grâce à son oncle maternel. Il va exercer le métier de drapier. On sait par ailleurs, parce que j'ai trouvé des documents, qu'il se marie peu de temps après. Et on le retrouve dans un document, une espèce de recensement vers 1740, à la tête d'une dizaine de personnes, d'une maison d'une dizaine de personnes.
Et il rédige au roseau sa relation en 1764, et on ne sait pas quand il est mort.
Mais on imagine qu'il a passé sa vie à raconter cette histoire et qu'il l'a mémorisée en la racontant. Et sans doute, à la fin de sa vie, a-t-il voulu mettre le texte par écrit pour transmettre l'histoire, pour que quelqu'un d'autre puisse la raconter après lui. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, les chrétiens d'Alep qui mettent par écrit des récits de voyage sont déjà assez nombreux.
Les difficultés commencent pour Alep, d'ailleurs, peu après son retour.
Il arrive à Alep quand il y a un premier tremblement de terre, assez impressionnant. Il y aura d'autres tremblements de terre qui détruiront une partie d'Alep au XVIIIe siècle. Là-dessus, il y a des épidémies de peste. Donc, la grande prospérité d'Alep est passée à ce moment-là. La crise s'aggravera avec l'arrivée massive des produits européens. Sans doute, quand il était drapier au souk, vendait-il des tissus du Languedoc. Quand il se présente à Louis XIV, il porte des vêtements en londrin, mais le londrin, c'est sans doute un tissu qui avait été tissé du côté de Montpellier et que les marchands marseillais avaient rapporté à Alep.
Portrait de haut en bas par vos soins, ceux de Jérôme Lantin et de Paul Calmet. C'est une édition à six mains de ce voyage d'Alep à Paris d'Anna Diab, qui est vraiment un témoignage extraordinaire qu'on peut recommander à tous nos auditeurs. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Alexandre Abergel, Ilinka Negulesco, Martin Cellier, Clara Garzon, Frédéric Martin pour la préparation. Il est 14h, vous écoutez France Inter.